Bienvenue à vous tous qui êtes masqués ici dans cette salle. Merci de garder le masque pendant toute la durée du culte. Et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent à travers la vidéo, qui n'ont pas besoin de mettre le masque. Mettez-vous à l'aise et qu'on puisse prendre ce temps pour notre Seigneur. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous accueille ce matin, comme dans tous les lieux dans le monde où l'on se réunit pour le célébrer. Je vais lire dans les psaumes au chapitre 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je crie à toi. Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. En priant. Père Céleste, merci de pouvoir nous réunir dans ce lieu, librement. Merci de pouvoir être en présence les uns avec les autres, entre frères et sœurs, partout dans le monde. Merci pour les personnes qui nous regardent aussi depuis chez eux, bénir et être auprès des personnes malades, des personnes dans la souffrance, dans le deuil. Toutes celles qui n'ont pas pu venir ici, sois auprès d'elles. Nous voulons venir à toi ce matin pour déposer à tes pieds tous nos soucis, toutes nos joies, toutes nos peines. Nous voulons te demander de venir nous remplir par ton Saint-Esprit, de ta joie, de ton amour, de ta paix, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère, ô Dieu. Sonde-nous et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous ne sommes pas sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité pour que nous puissions te laisser toute la place dans nos cœurs afin que tu grandisses et que nous puissions diminuer pour la gloire de ton nom. Amen. Se réjouir. Se réjouir même le matin au réveil, se réjouir même quand on a eu une nuit difficile, se réjouir même si on a appris une mauvaise nouvelle, se réjouir même si on a envie de pleurer. Nous lisons dans le psaume 146 « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai ». Pour ma part, j'aime bien écouter des chants de louange, en particulier le matin quand je vais au travail. Mais je vous avoue que pendant ces dernières années, il m'est arrivé d'écouter des chants de louange, de les chanter et de fondre en larmes. Parce que, en effet, la louange, elle ouvre le cœur, elle ouvre les émotions, elle sort, et alors on peut laisser Dieu qui nous console par ce biais-là. La louange par le chant peut être une clé pour ouvrir nos cœurs à Dieu, pour le laisser déverser en nous son amour et sa consolation. Osons chanter, même si nous avons envie de pleurer, car Dieu regarde à notre cœur. Le premier chant peut être nouveau pour certains d'entre nous. Vous verrez, il s'apprend très facilement. Je l'ai appris très facilement, il me court déjà après. Si vous ne le connaissez pas, vous laissez-vous entraîner par l'équipe de louanges, et puis vous verrez, vous pourrez le chanter très vite avec nous après. Que notre cœur se tourne vers le Seigneur pour le louer, d'un cœur reconnaissant. Vous pouvez, en gardant les masques, vous lever pour chanter.
Thank you.
Oui, il est Yeshua, Dieu sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16, 17. Au travers des deux chants suivants, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus qui s'est donné pour nous de son plein gré. Il est allé jusqu'au bout dans la souffrance, dans le rejet, dans le mépris. Tout ça pour chacun d'entre nous. Il nous a aimés jusqu'à la mort de la croix. Et nous n'avons qu'à l'accepter, lui demander pardon pour tous nos péchés, et il nous pardonne. Car comme il est écrit dans la Bible, « Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. » C'est dans Romains 5. Vous pouvez vous lever ?
Montre-moi
Oui, à l'agneau de Dieu, soit la gloire et la victoire. Que nous puissions dire à Dieu par de courtes prières notre reconnaissance et notre adoration. Il y a Jacques qui passera avec les micros pour que ceux qui sont en vidéo puissent entendre les prières. Et je terminerai pour prier pour la prédication. Sentez-vous libre de prier.
Oui, Dieu et Père, libère notre cœur. Pour que nous puissions tous faire monter vers toi notre adoration, notre reconnaissance. Amen.
Merci Seigneur pour la croix, pour le sacrifice, pour m'avoir pardonné. Merci Seigneur que tu me dis que même dans les épreuves, on doit être joyeux. Oui Seigneur, on peut. Parce que ton esprit, Seigneur, nous conseille, nous fortifie. Et Seigneur, on te donne tout à toi et tu nous donnes la joie, même de chanter. Alors je te rends grâce de tout mon cœur, dans le nom tout puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Merci Seigneur, parce qu'on peut tous dire, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Amen.
Amen.
Merci Seigneur pour ta bonté, tu dis que tu renouvelles nos forces chaque matin, et j'ai pu l'exprimer avec tant d'autres pendant la semaine, pendant la chaleur, dans le Kids Game, où tu as vraiment été présent. Je te loue, je te bénis de tout mon être. Amen.
Amen.
Oui, Père, merci pour cette présence. Merci parce que mon nom est écrit dans tes mains. Et Seigneur, c'est vrai qu'il y a une perspective aussi de pouvoir te louer avec des milliers d'anges. Et Seigneur Jésus, cette croix, finalement, est tellement grande et tellement, a une action tellement puissante, Seigneur Jésus, que nous pouvons, avec les anges, te louer, t'adorer. Et Seigneur, d'autant plus que mon nom est écrit dans tes mains. Amen.
Amen.
Seigneur, merci parce que tu es la vérité. Mon cœur bat réellement que par toi, Seigneur. Amen.
Amen.
Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ta vie que tu as donnée pour nous. Merci parce qu'on peut venir librement à toi avec tel que nous sommes et tu nous acceptes avec nos défauts, avec nos craintes, avec tout ce que nous sommes. Nous n'aurons jamais assez de mots pour te dire merci jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, j'aimerais te prier pour la prédication. Je te prie pour Nicolas Jeunecamp qui va nous parler de ta part. Merci de l'inspirer, de le oindre de ton Saint-Esprit afin qu'il nous parle et que nous puissions ressortir de ce lieu grandi avec une parole de ta part pour chacun d'entre nous. Amen.
Bonjour, je vais vous lire deux textes. Le premier se trouve dans Genèse, chapitre 21, versets 1 à 21. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, en faisant pour elle ce qu'il avait dit. Elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard, et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncée. Abraham nomma Isaac ce fils que Sarah lui avait donné. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah déclara, « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Et elle ajouta, « Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit. Quand Sarah cessa de l'allaiter, Abraham fit un grand banquet. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham, parce qu'Ismaël était son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas contrarié au sujet de ta servante et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. En effet, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Quant au fils de ta servante, je ferai aussi naître de lui un peuple, car il est ton fils. » Tôt, le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle erra dans le désert de Beersheba. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste, puis elle s'assit à l'écart, à la distance d'un jet de flèche, car elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc à l'écart et elle se mit à pleurer de façon bruyante. Dieu entendit la voix de l'enfant et des cieux, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur. Dieu a entendu la voix de l'enfant là-bas. Debout, prends ton fils et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui un grand peuple. » Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle y remplit l'outre et donna à boire à son fils. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Le deuxième texte se trouve dans Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 1 à 7. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartienne. En réalité, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et qui s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Nous, de même, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des forces qui gouvernent le monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme, il a vécu sous la loi juive afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants.
Quel plaisir de revoir la famille. Je ne dis pas seulement ça parce qu'il y a mon frère qui est là. David, pour ceux qui ne nous connaissent pas, effectivement, dans le cadre de ces culte et de ces échanges qu'on a la joie de vivre entre la paroisse protestante et l'Église évangélique. Comme je suis pasteur dans la paroisse du Mondement, on est dans la même région, c'est pour moi un plaisir d'être ici, mais pour retrouver la famille spirituelle aussi. Et effectivement, Prisca nous invitait à nous réjouir tout à l'heure, c'est pour moi une joie de nous retrouver ici. Joie de se retrouver en famille, mais les histoires de famille, c'est souvent un problème, et visiblement c'était déjà le cas il y a bien quelques siècles et même millénaires. Alors oui, la semaine dernière, pour remettre le cadre, Célina nous a parlé des chemins de traverse que nous utilisions et que Dieu utilisait par la même occasion, même si ce n'est pas forcément le chemin qu'il aurait voulu dans la première intention. Et par exemple, Sarah et Abraham, qui n'ont pas d'enfants, qui ont cette promesse qui ne se réalise pas, ont pris un chemin de traverse lorsque Sarah a donné à Agar, sa servante, à Abraham. Et là, ça a marché. Abraham est devenu papa. Il a un enfant, Ismaël. C'est le chapitre 16. Cela aurait pu suffire à Dieu. Finalement, Abraham avait un fils. Ismaël est inclus dans l'alliance. Il a été circoncis aussi. Il reçoit aussi la promesse d'une grande descendance. Il aura 12 fils. Mais c'est aussi exclure Sarah de la promesse. Et c'est valider le fait que l'on peut forcer humainement les promesses de Dieu à se réaliser. Alors non, Dieu choisit ses chemins et finalement, il passe bien par Sarah et c'est Isaac qui naît, on l'a entendu. Mais ça tourne mal, il y a une jalousie autour de l'héritage qui sera là un jour. Et il y a cette expulsion. Pour Agar, la servante de Sarah, l'histoire se répète et même empire, parce que justement au chapitre 16, 14 ans avant, alors qu'elle était enceinte d'Ismaël, elle a déjà pris la fuite et elle est allée dans le désert parce qu'elle était persécutée, on peut le dire comme ça, par Sarah, déjà pour une cause de jalousie lorsque Sarah a vu Agar enceinte. Mais l'envoyé du Seigneur, l'ange, a rejoint Agar dans le désert et lui a déjà dit des paroles assez semblables à celles qu'on a entendues tout à l'heure. « Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. » On a l'impression de lire une promesse qui a été faite à Abraham, mais là elle concerne Ismaël. Et dans le texte que l'on a entendu, Agar se retrouve justement dans le désert. Cette fois, ce n'est plus une fuite qu'il envoie, mais elle est carrément expulsée à la demande de Sarah, expulsée par Abraham. Et l'envoyé du Seigneur la rejoint à nouveau. Les deux fois, cet ange de l'Éternel la rejoint dans le désert. Les deux fois, il y a une rencontre qui se joue et qui se termine autour d'une source ou d'un puits, alors qu'il n'y a plus rien à boire. Dieu répond à la soif d'Agar, soif biologique, mais aussi soif de vie, soif spirituelle, soif de reconnaissance. J'ai utilisé 4 fois le mot soif, ou même peut-être plus, ça doit résonner dans les oreilles de certains qui ont participé au fameux camp de la Drôme il y a 15 jours, 3 semaines. Alors oui, ce récit, on l'a entendu, on voit un conflit entre deux frères, ou deux mères en l'occurrence. Ça rappelle ces récits de l'Ancien Testament. Dès le début, on voit ces difficultés entre frères, en l'occurrence, Caïn et Abel, Jacob et Ésaü. Conflits qui se sont souvent tissés autour de difficultés, d'incompréhensions, de non-dits, de malentendus. Conflits avec des jalousies, envie de prendre la place de l'autre, d'avoir ce qu'il a. Je n'ai pas envie de vous donner d'exemple, mais ce qui était vrai il y a plusieurs millénaires, vous avez sans doute vu autour de vous que ça se passe aussi entre les enfants aussi aujourd'hui. Jalousie dans une fratrie, rien de surprenant, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas une question facile à régler. Et dans ce récit aussi, il y a des problèmes de jalousie, mais pas tant entre les demi-frères, on n'a pas grand-chose à ce sujet-là. On peut comprendre qu'Isaac est tout petit encore, c'est vrai, mais c'est plutôt avec Sarah qui est jalouse et qui profite de son statut pour faire renvoyer Agar, sa servante. La jalousie de Sarah, c'est justement cette peur qu'Ismaël participe ensuite au partage de l'héritage au moment de son décès et de celui d'Abraham. Alors c'est vrai qu'on a souvent une image assez mauvaise d'Ismaël, mais j'aime la grâce dont il est entouré avec sa mère Agar. Et Abraham a aussi cette affection pour Ismaël, on l'a entendu, il se doute bien que son fils, en l'envoyant dans le désert, il va mourir, c'est le but, hein, si on ne veut pas qu'il participe à l'héritage, c'est ça. Mais Dieu lui-même rejoint Ismaël et Agar et les entoure de son amour. C'est assez surprenant, on a des fois l'image que l'Ancien Testament nous présente un Dieu un peu dur, qui nous choque parfois, et le Nouveau Testament où la grâce est souvent présente. Et avec Agar, c'est un peu le contraire, j'ai l'impression, parce que si on lit la fin du chapitre 4 des Galates, j'étais d'ailleurs parti par là avant de remonter au début du chapitre qu'on a entendu, on voit que Agar est plutôt méprisée comme étant la représentante de cette alliance qui passe par la femme esclave, au contraire de Sarah, qui représente l'alliance par la femme libre. Donc une Agar plutôt décriée dans le Nouveau Testament, alors que dans l'Ancien Testament, Dieu fait grâce à Agar et Ismaël. Oui, il l'entend. Ismaël, c'est Dieu entend. Dieu entend Ismaël, Dieu entend, Dieu entend. Il entend quand Agar est enceinte, il entend quand Agar est expulsée. Il les relève aussi avec cette parole, « Lève-toi ». Je ne vais pas m'étendre sur cette parole, dans le Nouveau Testament, elle est si importante. « Lève-toi », le verbe de la résurrection. Mais le verbe qui a aussi été adressé à Abraham au chapitre 13, « lève-toi ». Et ça, j'ai découvert cette semaine que c'est le même verbe qui est utilisé quand on établit une alliance. Donc quand il y a ce verbe « lève-toi » en hébreu, il y a le même verbe qui est utilisé pour établir une alliance. On traduit le même verbe par « lève-toi » ou par « établir ». Oui, il lui donne une promesse et Dieu pourvoit, il donne à boire à Agar et Isaac. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Je ne vais pas parler des problèmes d'héritage dans les familles, mais je vais plus m'arrêter sur ce qui peut se passer entre familles spirituelles. Il y a aussi des conflits, des tensions, mais je crois plutôt des incompréhensions, peut-être des non-dits, comme entre les fratries dont on a évoqué dans l'Ancien Testament. Et c'est là que je souhaite me pencher davantage sur ce texte des Galates. Un récit qui rappelle qu'avant Jésus-Christ, avant son action, il y avait ceux qui étaient sous le régime de la loi, les Juifs, et ceux qui étaient hors de l'Alliance, tous les autres, nous avec. Et Jésus-Christ a vécu sous la loi, il l'a accompli. Avec ça, l'Alliance prend une nouvelle dimension. Je vous relis le verset 5. « Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi, les Juifs, et pour faire de nous, les non-juifs, des enfants de Dieu. » Magnifique réalisation, c'est le chef-d'œuvre du salut. Avec pour conséquence que par l'Esprit, nous devenons fils et filles de Dieu, tous ensemble, co-héritiers. Ah, ça y est, on se retrouve avec un problème d'héritage. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? Ça peut créer des soucis, même au niveau spirituel. Et c'est tellement facile de critiquer nos frères et sœurs d'une autre église, de se croire issus de la bonne famille, voire de la meilleure des familles, et peut-être de revendiquer alors une plus grande part d'héritage, voire de demander de déshériter les autres. Les jalousies, parce que c'est aussi ça qui se cache des fois là derrière, on les retrouve dans les phrases, les piques que des réformés peuvent dire sur des évangéliques, ou que des évangéliques peuvent dire sur des réformés. On en connaît tous de ces phrases. Je pourrais même vous proposer un petit jeu. Je vais vous faire quelques phrases, puis vous pouvez essayer de deviner dans votre tête qui pourrait le dire. Ils ne prennent pas de recul par rapport au texte biblique. Ils ne sont pas nés de nouveau. Je ne supporte pas qu'ils bénissent des couples homosexuels. On prêche la grâce et culpabilise les gens pour se convertir. Je n'aime pas ces moments où chacun y va de sa petite prière. Ils n'ont que des prières écrites qu'ils lisent. J'imagine que vous avez pu mettre des catégories assez facilement, coller des étiquettes comme on sait si facilement le faire, il y en aurait d'autres, c'est pas compliqué. Parfois, l'Église a été considérée comme la mère des croyants. Calvin a utilisé cette image, entre autres. Alors j'ai l'impression que dans nos diversités, nous avons le même Père, on prie le Notre Père, on est d'accord avec ça. Peut-être que des fois, on se dit qu'on n'a pas tout à fait la même mère, comme Ismaël et Isaac. On est peut-être des demi-frères, des demi-sœurs de ceux qui se réunissent à côté, qui se réunissent différemment. Est-ce suffisant pour se battre alors pour un héritage? Je ne crois pas. Dieu nous donne sa bénédiction, il nous donne ses promesses, son alliance. Il nous aime avec nos faiblesses, comme il a aimé Agar avec ses faiblesses, comme il a aimé Sarah avec ses faiblesses, comme il a aimé Ismaël et Isaac, Cain et Abel, Jacob et Ésaü. Alors oui, on n'a peut-être pas tout à fait la même mère, mais on a le même Père. Un Dieu qui a une telle richesse qu'on n'a pas de souci à se faire sur l'héritage. Il est magnifique. Et c'est peut-être une invitation alors à nous connaître. Est-ce que tous les évangéliques croient vraiment que le monde a été créé en 6 jours? Peut-être que si on a ce genre d'étiquette qu'on colle sur les autres, aller discuter avec les uns ou les autres et ouvrirait notre vision des choses. Alors oui, merci à celles et ceux qui ici à Mérin ont permis aux demi-frères et aux demi-sœurs évangéliques, réformés, catholiques de vivre et de partager ensemble les bénédictions que Dieu le Père nous a donné dans la découverte de nos différences avec la richesse que cela apporte. Cela fait quasiment 60 ans que ces liens existent, qu'il y a ces rencontres, ces échanges, ces partages, et ça aussi c'est un héritage, comme ces cultes en commun de l'été, un héritage riche, précieux. Alors frères et sœurs, c'est une expression que j'utilise quasiment jamais dans mes prédications, frères et sœurs, que l'on puisse, et même pas demi-frères et demi-sœurs, hein, frères et sœurs, que l'on puisse garder ensemble cet héritage, héritage spirituel, héritage relationnel, le faire fructifier ensemble, enfants d'un même Père. Il fait grâce. Quel plaisir de revoir la famille. Amen. Et pour continuer dans cet état d'esprit, je vous invite à chanter un vieux chant, « Père, unis-nous tous ». Il paraît que les jeunes ont dû l'apprendre. Alors voilà. Merci beaucoup pour votre accompagnement.
Comme nous l'avons entendu dans le texte des Galates, le mot père en hébreu se dit Abba. Et dans ce dernier chant que nous allons écouter, il est question de Abba. Oui, Abba, notre Père, qui est dans les cieux. C'est lui qui nous prend dans ses bras. C'est vers celui vers qui nous tournons dans toutes nos situations de la vie. Celui que nous implorons pour nos enfants et pour nos familles. C'est un chant qui parle de famille et de guérison de famille. Et je vous propose d'écouter ce chant, et ceux qui le connaissent peuvent bien entendu le chanter. Vous pouvez aussi vous lever pour le chanter. Et nous prierons après le chant. Seigneur Jésus, c'est vrai, tu es le seul Dieu, le seul roi qui donne la paix et la joie et qui peut guérir nos familles. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message que tu nous as partagé au travers de Nicolas. Merci de le faire entrer dans nos cœurs, de le faire vivre pour cette semaine, de le mettre en pratique aussi entre nos communautés. Que tu puisses nous aider à nous apporter mutuellement des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles qui viennent de toi, et que nous puissions mettre toutes nos pensées négatives au pied de ta croix pour que tu nous les prennes et que tu nous les enlèves, pour que ton amour surpasse toutes nos pensées négatives. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces semaines avec les familles, pour les enfants qui ont été dans les camps. Nous te demandons pour ceux qui sont encore dans les camps et ceux qui ont vécu des camps comme les Kids Games ou les camps de la Ligue, les camps de la JAB, de pouvoir bénir ton message qui est apporté par les moniteurs. Nous aimons te remettre aussi la rentrée pour les moniteurs, que tu puisses les fortifier, les inspirer, les équiper. Nous prions pour tous les parents, pour que tu puisses les équiper eux aussi pour apporter ta parole au sein de leur famille, qu'ils puissent vivre ta parole, ton amour au sein de leur famille, même si c'est difficile dans ce monde. Que tu puisses protéger nos enfants, protéger les enfants de nos communautés, pour que tu puisses les entourer de tes anges gardiens, de ta grâce, de ta paix, de ton amour, qu'ils puissent être des témoins dans les écoles. Nous te prions sur les enseignants aussi, que tu puisses eux aussi les encourager pour vraiment être à ton écoute. Merci aussi pour nos pasteurs, nous te remercions pour nos pasteurs, nous te les remettons, que ce soit des communautés protestantes ou évangéliques ou partout dans le monde où ta parole est annoncée, que tu puisses fortifier ta parole, que tu puisses l'entourer de ton Saint-Esprit, de ta puissance de l'Esprit, pour que ça puisse ouvrir les cœurs et que les âmes puissent se tourner vers toi. Malgré les difficultés de ce monde, que nous puissions voir ta main à l'œuvre dans nos vies, dans nos situations de famille. Merci Seigneur de bénir chacun ici, ceux qui sont encore en vacances, ceux qui reprennent le travail, ceux qui vont à l'école pour la rentrée, pour tout ce qui fait cette semaine à venir, que tu puisses être présent dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. Et nous avons Manon Muller qui veut juste nous partager un mot. Et ensuite, nous aurons les annonces.
Bonjour. Ça fait du bien de retrouver la famille aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fille de Myriam et Jean-Yves Muller. Et j'ai été longtemps dans cette famille-là avant de partir à Dijon. J'ai un projet dont je voudrais vous parler. Certains sont déjà au courant. Je pars au Tchad le 19 septembre pour une année avec la mission AMIP qui est à Pontarlier en France. Là-bas, j'aurai plusieurs projets. Je vais d'abord aller à N'Djamena et puis après à Béché pour m'occuper d'enfants, d'enfants des rues, aussi des enfants orphelins. Mais il y a aussi tout plein d'autres projets qui sont des projets agricoles, des projets auprès des enfants qui sont prématurés, toute une dynamique d'accueil de missionnaires aussi pour qu'ils puissent se former, se reposer. En fait, il y a énormément de choses à faire là-bas et je peux aussi créer des projets sur place selon les besoins et les personnes que je vais rencontrer. Donc je voulais vous remettre ce projet-là pour avoir des soutiens dans la prière et pour être tous ensemble là-bas. Voilà. Je sais pas. Je reste bien sûr à la fin du culte si vous avez envie d'avoir un peu plus de nouvelles. S'il y en a qui ont envie de recevoir les lettres de nouvelles et qui ne les ont pas eues, vous pouvez aussi venir me voir. Et puis je vous remercie d'avance pour ça et merci de votre accueil.
Comme Philippe de faire les annonces, on fera après les annonces. Seigneur, j'aimerais te remettre Manon, j'aimerais te la remettre pour ce voyage, te demander ta bénédiction sur elle, que tu puisses garder son départ et son arrivée, et surtout que tu puisses la protéger aussi dans sa santé, dans tous les contacts qu'elle fera là-bas, qu'elle soit vraiment tes mains, tes oreilles, ta bouche, ton regard auprès de ceux qui en ont besoin. dans le nom de Jésus. Amen.
Je vous recommande particulièrement la lettre de nouvelles de Manon. J'ai le privilège de recevoir pas mal de lettres de nouvelles, une comme ça, jamais. Donc, si vous voulez lire une belle lettre de nouvelles, abonnez-vous à celle de Manon. Juste quelques annonces, mais peut-être d'abord pour la paroisse. Est-ce qu'il y a pour la paroisse protestante de Mérin une annonce ou l'autre ? Alors, nous concernant cette semaine, nous aurons mardi soir ici à 20h une rencontre de prière communautaire. Bienvenue à celles et ceux qui souhaitent y participer. Nous prierons pour la saison qui vient, pour la situation aussi préoccupante en bien des endroits du monde. Et je pense qu'il est juste que nous, chrétiens, nous nous solidarisions avec le peuple afghan, par exemple, avec la situation également au Liban ou encore en Haïti. Donc, bienvenue, mardi soir, 20h, une rencontre de prière. Selon le nombre que nous serons, ce sera en bas ou ici. Et puis, mercredi soir, si le temps le permet, les grillades, les dernières de la saison, à pas manquer, avant que le soleil ne se couche un peu plus tôt. Donc, mercredi soir, je crois, aux alentours de 19h, venez avec vos grillades, vos salades. Si le temps le permet, on se retrouve ici dans le pré. Il y a de la place aussi pour les enfants, comme mercredi dernier. C'était un chouette moment. Et puis dimanche, le dernier culte en commun de la saison, le chapitre 22 de la Genèse, cet épisode un peu étonnant où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. On s'arrêtera un petit peu là-dessus. Voilà pour les annonces me concernant. Peut-être juste donner deux nouvelles encore de Florence Piguet, qui a été hospitalisée cette fin de semaine, qui est encore en soins intensifs ici à La Tour. Mais la situation, Charles Abel me le disait encore tout à l'heure, s'est bien améliorée. Mais on peut penser bien sûr à Florence et puis à Charles Abel et les enfants, petits-enfants.
Voilà, je profite juste pour vous dire qu'il y a aussi un culte à la chapelle de Malval, aussi sur cette thématique qu'on a aussi suivi avec les collègues de la région. Voilà, je ne sais pas si ça sera le chapitre 22, mais aussi la fin de l'histoire d'Abraham, en tout cas, une suite. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et je la commence en relisant le dernier verset qu'on a lu dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant, et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Oui, frères et sœurs, qu'un même esprit, qu'une même alliance puisse nous porter, nous accompagner, pour vivre avec nos différences, nous enrichir de nos différences et nous accepter. Que le Seigneur nous donne sa paix, nous accompagne. Allons dans la paix du Christ. Amen.